Les leçons de l'histoire internationale, la chronique animée par Georges-Henri Soutou de l'Académie des sciences morales et politiques. Une chronique régulière que vous retrouverez 4 ou 5 fois dans l'année. Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Quel thème avez-vous choisi pour cette chronique ?
Un serpent de mer depuis 1948, l'Europe de la défense.
Donc, dès 1948, dès les débuts de la construction européenne, après la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale et dans le contexte de la guerre froide, la question d'une personnalité européenne de défense a été posée.
En effet, ce fut d'abord le pacte de Bruxelles de mars 1948. C'était une alliance militaire qui rassemblait la Grande-Bretagne, la France et les 3 pays du Benelux face à la menace soviétique, illustrée et très, très présente dans les esprits à l'époque par le coup de Prague de février 1948, instaurant le communisme à Prague par un coup d'État quelques semaines auparavant. Cette alliance, pacte de Bruxelles, mis sur pied dès le mois de septembre 1948, un véritable état-major qui était basé à Fontainebleau et qui aurait assumé le commandement des forces des partenaires, donc 5 pays européens, en cas de guerre.
Alors, pour quelles raisons cet état-major européen autonome a-t-il disparu 18 mois plus tard, début 1951 ?
C'est à cause de l'aggravation de la tension Est-Ouest avec la guerre de Corée en juin 1950 qui avait poussé les pays européens à fondre dès le début de l'année 1951 l'état-major de Fontainebleau dans ce qu'on appelait dès lors l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui était la structure militaire du pacte atlantique signé entre Européens et Américains en avril 1949. Vous voyez ainsi la fin du seul état-major européen que l'histoire ait jamais connu, mais tout le monde était d'accord sur le fait que les États-Unis et l'OTAN constituaient à l'époque la seule garantie de sécurité valable pour l'Europe occidentale face à l'Union soviétique.
Mais un deuxième projet d'armée européenne voit le jour en 1950-1951. C'est la fameuse Communauté de défense européenne, la CED.
Oui, la CED, imaginée par les Français en 1950-1951, constituée à un moment important et peut-être la grande crise, la première grande crise de l'histoire de la construction européenne. L'idée était d'encadrer le réarmement allemand que les Américains exigèrent immédiatement après le début de la guerre de Corée en juin 1950, parce qu'ils estimaient qu'on ne pouvait pas défendre l'Europe occidentale si on ne faisait pas appel à des contingents allemands. Mais bien entendu, ce projet d'armée européenne, de CED, a soulevé en France une opposition considérable. D'abord parce qu'il conduisait à réarmer la République fédérale. Je rappelle qu'on était 5 ans seulement après la fin de la guerre. Et quelle guerre ! Et en outre, le projet de CED, pour pouvoir priver l'Allemagne de toute indépendance en matière militaire, on la réarmait, mais on ne voulait pas qu'elle risque d'utiliser sa force militaire nouvelle, eh bien, le projet mettait sur pied une défense européenne supranationale dans laquelle l'armée française aurait été, elle aussi, absorbée. Pour lier l'Allemagne, la France devait accepter de se lier elle-même. Du coup, comme c'était insupportable pour toute une partie de l'opinion, le projet finit par échouer devant l'Assemblée nationale française le 30 août 1954.
Alors, échec en août 1954, certes, mais dès octobre 1954, on en sauva néanmoins quelque chose et ce fut la création de l'Union de l'Europe occidentale. Que reprenait-elle cette UEO ?
Alors, l'UEO reprenait le pacte de Bruxelles de 1948 en y ajoutant la RFA, la République fédérale, et l'Italie. l'UEO n'était pas une réelle organisation militaire, c'était fondamentalement un traité d'alliance dont l'article 4 définissait le cas d'alliance, comme on dit en latin le casus federis, de façon beaucoup plus rigoureuse que l'article équivalent, qui est lui très élastique, de l'Alliance Atlantique. L'article 4 impose une assistance militaire apportée aux pays alliés en cas de guerre. L'Alliance Atlantique, l'assistance militaire est plus vague, laissée à l'appréciation de chaque pays, en fait. Par la suite, beaucoup plus tard, au début du présent siècle, l'UEO devait disparaître. Mais son article 4, précisant justement de façon très rigoureuse les obligations de l'Alliance, a été repris dans le texte du traité de Lisbonne de 2007, ce que l'on ne sait pas toujours. Et on notera que c'est simplement avec le traité, à partir du traité de Lisbonne de 2007, que l'Europe institutionnelle, d'abord la Communauté économique européenne, puis maintenant l'Union européenne, comporte le volet juridique d'une alliance militaire.
Et au début des années 60, les choses faillirent évoluer. De Gaulle et Adenauer fondèrent alors largement leurs relations sur la conviction partagée que l'Europe devait retrouver les éléments de la puissance économique, technologique, mais aussi militaire. Le traité de l'Élysée en 1963 avait une dimension stratégique essentielle, visant à terme, en fait, une défense européenne en dehors ou à côté de l'OTAN, à partir d'un noyau franco-allemand. Alors pourquoi les Allemands furent-ils par la suite beaucoup plus réservés ?
L'Allemand, d'abord, était en proie à des débats internes sur cette question, et le chancelier Adenauer, qui avait conclu le traité de l'Élysée avec De Gaulle, n'a pas été vraiment suivi. Il a même été critiqué par une bonne partie de la classe politique allemande. Pour quelles raisons ? D'une part, parce que les Allemands étaient encore inhibés par leur passé récent. Et un deuxième point, qui est lié évidemment au précédent, ils n'estimaient pas pouvoir s'écarter des États-Unis et donc de l'Alliance Atlantique. Alors, le général de Gaulle avait tendance à les placer devant un choix entre Paris et Washington que les Allemands ne pouvaient pas résoudre autrement qu'en choisissant Washington, beaucoup plus puissante évidemment, face à l'URSS. Ceci dit, les Français continuèrent à penser dans cette direction d'une défense européenne autonome à partir d'un couple franco-allemand, si vous voulez, et ils évoquèrent même souvent dans les années 1990 un concept qui n'était pas nouveau, mais dont l'expression était nouvelle à ce moment-là, Europe-puissance. L'Europe-puissance, on en parle beaucoup à cette époque. D'ailleurs, François Mitterrand et le chancelier Helmut Kohl, dans les bouleversements liés à la réunification allemande et à la fin de la guerre froide, ont repris ces idées. Si vous étudiez de près le traité de Maastricht de 1992, il comporte un volet de politique extérieure et de sécurité commune. L'acronyme, c'est la PESC, n'est-ce pas ? Même si ce traité suborne toujours l'Europe de la défense à l'Organisation Atlantique. Mais malgré tout, la défense européenne commençait à prendre forme. En 1992, on créa un Eurocorps franco-allemand auquel se joignirent rapidement Belges et Espagnols et qui a été engagé, par exemple, dans les affaires des Balkans à la fin de la crise de l'ancienne Yougoslavie.
On était sans doute au point haut d'une courbe qui est très vite retombée par la suite. Mais au tournant de l'an 2000, les esprits se sont agités de nouveau, semble-t-il.
En effet, il y a eu une période importante pour notre sujet à partir du sommet franco-anglais de Saint-Malo en 1998 entre Tony Blair et le président Jacques Chirac, sommet qui marqua l'entente des deux puissances militaires les plus conséquentes et plus actives au sein de l'Union européenne. Et au sommet européen d'Helsinki en décembre de l'année suivante, 1999, les membres de l'Union européenne décidèrent de créer un comité militaire réunissant les ministres de la défense des différents pays. Je rappelle que jusqu'à ce moment-là, il n'y avait pas de structure proprement militaire au sein de l'Union européenne. Ils décidèrent de créer un comité politique réunissant les ministres des Affaires étrangères pour donner des directives politiques au comité militaire. Un état-major militaire, mais là je précise bien, de planification. Pas de commandement opérationnel, car on ne voulait pas concurrencer les commandements de l'OTAN. Les autres partenaires ne l'auraient pas accepté. Mais cet état-major militaire de planification serait le conseiller militaire du Conseil européen. On décida en outre que, dès 2003, l'Union européenne devrait être capable de projeter, éventuellement hors de son territoire et pendant 6 mois, une force dite de réaction rapide de 60 000 hommes, ce qui était très ambitieux et on en est très très loin, je le précise tout de suite. On créa d'autre part en 2004 une agence européenne de défense dont l'objet était de dégager, de conduire des programmes d'armement communs. Le plus important actuellement est celui de l'avion de transport A400M, qui va être bientôt livré progressivement aux armées de l'air européennes. En avril 2003, dans le contexte de la crise irakienne, de la deuxième guerre d'Irak, Paris et Berlin suggérèrent d'aller encore plus loin et de transformer en état-major opérationnel le simple état-major de planification prévu, vous vous en souvenez, en 1999. Finalement, on créa une cellule opérationnelle au sein de cet état-major européen qui serait compétente pour d'éventuelles opérations en dehors de l'OTAN, si l'OTAN n'intervenait pas, étant entendu que le commandement effectif sur le terrain serait assuré par le pays européen le plus engagé dans cette opération. Il y a eu des opérations de ce modèle en Afrique, par exemple au Zaïre. Actuellement, l'opération proprement militaire, parce qu'il y a des opérations de maintien de l'ordre qui sont plus civiles parfois que militaires, mais comme opération proprement militaire en ce moment, nous avons essentiellement l'opération dite Atalante, qui réunit des bâtiments des différentes marines européennes pour lutter contre la piraterie au large de la Somalie.
Et quels furent l'argumentaire et les grands axes de la défense européenne ces dernières années ?
Bon, bien entendu, cette notion de défense européenne était comprise désormais dans une stratégie différente de celle des années de la guerre froide ou même de l'avant-guerre. Elle axait désormais la sécurité de l'Europe sur la prévention des crises, à la suite de l'expérience cuisante des Balkans, où on avait vu les répercussions possibles d'une crise locale sur la stabilité de l'ensemble européen. Deuxième axe, la notion de respect des droits de l'homme, de promotion et d'extension géographique des valeurs de l'Union européenne, avec des opérations dites de maintien de la paix ou de rétablissement de la paix, qu'on appelle dans le jargon européen les missions de Petersberg, éventuellement avec des opérations extérieures d'ingérence humanitaire, comme on dit maintenant, dans le cadre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, qui autorise, le cas échéant, des interventions militaires, même sans l'accord du pays concerné, si le désordre qui y règne provoque ce qu'on appelle une menace contre la paix. Étant entendu que toutes ces interventions de l'Union européenne doivent se dérouler, doivent être entérinées par un cadre multilatéral, que ce soit l'ONU ou l'OTAN. Seulement, cet argumentaire qui ne niait pas le concept d'Europe puissance, d'Europe de la défense, même s'il l'interprétait de façon très prudente, a été rendu moins convaincant à la suite des résultats douteux des expéditions occidentales en Irak depuis 2003 et en Afghanistan depuis 2001. Quant à l'intervention en Libye en 2011, on sait que l'Union européenne a été profondément divisée, les Britanniques et les Français menant l'opération et la République fédérale refusant absolument de s'y associer.
Et de nos jours, l'Europe de la défense n'existe plus guère pour les Européens que dans le cadre de l'OTAN. Il n'y a donc plus de réflexion ou plus d'orientation stratégique au niveau européen ?
On n'est certainement plus, ou je dirais même plus, dans la situation de 1999. Il n'est plus question actuellement de parler sérieusement des aspects militaires de la puissance au niveau de l'Union européenne, même si au niveau national, la Grande-Bretagne et la France essentiellement s'en préoccupent encore. Mais pour l'organisation, pour les forces, pour l'armement, pour le moment, le concept français d'Europe puissance a échoué. Il y a une véritable personnalité européenne de défense. L'échec de la fusion entre EADS et BAE en est la manifestation la plus récente. D'autre part, la République fédérale s'abstrait de plus en plus de l'effort européen, disons, dans ce domaine militaire. Et la Grande-Bretagne, c'est encore plus grave, elle commence à s'écarter, on le voit bien, de l'Union européenne elle-même. La France, qui est tournée pour l'économie et pour la monnaie, pour l'euro, vers Berlin, et d'autre part, qui est tournée pour la défense vers Londres, car ce sont les deux appareils militaires français et britanniques qui collaborent le plus, en fait, dans les crises, la France est donc condamnée ou va être condamnée à une sorte de grand écart. Les idées émises tout récemment à Berlin dans le sens d'une défense européenne de type fédéral doivent être prises pour le moment avec beaucoup de prudence, ce sont encore des hypothèses directement liées à la gestion de la crise de l'euro. On verra.
Et cette paralysie, souvent rationalisée au nom de soft power, économique, culturel, informatique, démocratique, qui démoderait la puissance traditionnelle, mais ne peut-on se demander si l'accent mis sur le soft power n'est pas aussi une rationalisation de l'impuissance militaire ?
On peut tout à fait se poser la question. Bon, il y a certainement une part de sincérité, mais on constate que l'Union européenne ne dépense que 2% de son PNB pour la défense, alors que les États-Unis en sont à 3,5%, et je dirais le double en valeur absolue. D'autre part, pour la recherche-développement dans le domaine militaire, l'innovation, si vous voulez, militaire, des armements, l'Amérique dépense 4 fois plus. En outre, de nombreuses duplications, 3 modèles différents de chasseurs, 20 de modèles différents de nouveaux blindés, de nombreuses duplications réduisent encore l'efficacité des dépenses européennes.
Et alors actuellement, le serpent de mer de l'Europe de la défense serait-il vaincu par son impuissance militaire, matérielle et politique ?
À mon avis, le problème va même encore au-delà et dépasse aussi le fait que les pays de l'Union européenne ont toujours des conceptions différentes dans le domaine international et des perceptions différentes, divergentes, des enjeux, des intérêts en cause, comme l'a démontré la crise libyenne où entre Londres, Paris et Berlin, il y avait des analyses tout à fait différentes. Le problème est, à mon avis, presque philosophique. Au nom du multiculturalisme, on ne doit plus marquer ou même concevoir la moindre différence, la moindre frontière entre les groupes humains sur la planète. Or, il n'y a pas de défense s'il n'y a pas la perception, je ne dirais pas d'un adversaire, mais au moins d'un autre. Bon, l'Europe de la défense est donc en panne et, à mon avis, durablement, même si on parle bien sûr régulièrement de la relancer.
Merci monsieur et à plus tard pour une autre de vos chroniques sur Canal Académie.
Merci à vous et bien volontiers, à bientôt.